Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, l'épisode qui aurait dû sortir jeudi dernier, voilà, mais qui n'a pas pu, pourquoi ? Car jeudi dernier, la semaine dernière sur ma chaîne YouTube, 6 nouvelles vidéos sont sorties et voilà, j'ai été un petit peu noyé sous ce travail que je me suis infligé et voilà, j'étais obligé de faire des concessions et c'est tombé sur cet épisode de podcast, malheureusement. Alors voilà, j'apprends de mes leçons, j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre à ce niveau-là et ça ne devrait plus se reproduire. En tout cas, je suis reparti comme il faut sur cet épisode. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Pradal, alias Nico, que tu ne connais pas encore, ou alors seulement en tant que voilà, signature d'email, éventuellement si tu nous as déjà écrit au SAV de la boutique Eric Flag, car Nico est le cofondateur de cette boutique, qu'il a cofondée avec moi du coup, il y a de ça plus de 2 ans maintenant. Tu auras donc compris qu'avec Nico, on se connaît bien, c'est bien pour ça que je me permets de l'appeler Nico, tu vois. Et donc, au cas où tu n'es pas au courant, sur cette boutique, on vend des équipements de musculation au poids du corps et de street workout, et aujourd'hui encore, on travaille quotidiennement dessus, toujours tous les deux. Par contre, dans cet épisode, on va pas mal revenir en arrière dans la chronologie de tout cela, et dans la première partie de l'épisode, on va en apprendre plus sur Nico, sur son parcours, sur comment il est passé de militaire sur le terrain à entrepreneur en e-commerce, jusqu'à arriver à raconter notre rencontre, voilà, ce merveilleux moment dont tu apprendras un petit peu plus, ainsi que comment on en est arrivé à travailler ensemble par la suite, à créer une société pour finalement, et tout ça, ça prend bien plus de temps que je l'aurais cru, comme tu vas l'entendre, lancer cette boutique et vendre nos 2 premiers produits à la fin de l'année 2019. Et juste avant de commencer cet épisode, je pense que Nico ne m'en voudra pas si je passe l'annonce qu'on vient de lancer la période de Noël sur la boutique, eh oui, avec les plus grosses offres qu'on ait jamais proposées sur certains articles et packs spéciaux de Noël qu'on a créés pour l'occasion. Donc si tu as besoin de barres parallèles, de barres de traction, de bandes élastiques ou d'autres choses pour t'entraîner chez toi ou dehors, eh bien on te remercie énormément si tu décides de nous faire confiance et de prendre cela chez nous. Tu devrais pas être déçu normalement au vu de notre investissement dans tout ça, dont on va te faire part d'une première partie aujourd'hui en tout cas. Et dans ce cas, tu trouveras tout cela sur la boutique qui se trouve sur ericflag.com. Voilà, sans plus attendre, voici ma discussion avec Nicolas Pradal. Bon, eh bien, salut Nico.
Salut Eric.
Tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Toujours bien depuis ce matin ?
Toujours bien, on se parle assez régulièrement, mine de rien, donc ouais,
oui,
ça va, ça va.
On se parle à peu près tous les jours pour le travail, mais c'est la première fois qu'on se parle dans un contexte un petit peu différent de création de contenu. Normalement, c'est un petit peu plus mon rôle de
ouais,
faire ça.
Je t'avoue que c'est une première pour moi, mais avec plaisir.
Ah, tu vas t'en sortir comme un chef, j'en suis sûr.
Ah, espérons.
Eh ben, du coup, c'est parfait. On va pouvoir commencer tout de suite. Nico, en fait, est le cofondateur de la boutique Eric Flag. Je ne suis que la moitié responsable de tout cela. Nico est celui avec lequel on a lancé tout cela tous les deux depuis le début. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on a commencé. Et puis, dans le cadre de ce podcast, on avait envie de faire une petite série d'épisodes pendant lesquels on parlerait un petit peu de nos aventures. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, ça fait plus de 2 ans qu'on a commencé. La boutique commence à prendre un petit peu d'ampleur. On a commencé à 2, on est toujours 2 aujourd'hui. On a traversé pas mal de choses. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour d'autres personnes. Et puis, on va aussi pas mal parler. On va pas parler de e-commerce technique. On va parler de plein de choses, de notre relation à tous les deux, du fait qu'on a fondé tout cela ensemble et de comment on s'en est sorti au quotidien et comment on s'en sort toujours, je l'espère. Mais pour pouvoir parler et pouvoir apprécier tout ça, même si moi, évidemment, on commence à se connaître un petit peu maintenant, Nico, mais je pense que vu que c'est la première fois que le deuxième protagoniste de cette aventure sort de l'ombre, eh bien que tu racontes un petit peu à tout le monde. Qui es-tu ? Qui es-tu, Nico, s'il te plaît ? D'où tu viens ? Quel est ton parcours avant qu'on se rencontre pour la première fois, je crois, c'était en septembre 2018 qu'on s'est parlé pour la première fois.
Exactement. Donc je sors de l'ombre, effectivement. donc c'est avec plaisir, déjà, je te remercie de m'intégrer dans un de tes podcasts. C'est avec plaisir que j'y participe en tout cas. Je tenais à remercier déjà dans un premier temps l'ensemble des personnes qui écoutent, qui suivent Eric, parce que tout ça, mine de rien, est intimement lié. Donc je vais me présenter dans ce premier podcast. Donc je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans. Je suis associé avec Eric sur cette boutique. Donc moi, à la base, rien ne me prédestinait à faire tout ça, à faire du e-commerce, du commerce en règle générale, parce que je suis rentré en école militaire à 20 ans par passion, par vocation. Donc j'avais comme objectif d'intégrer une unité d'intervention dans l'armée, donc voilà, mon objectif depuis que je suis tout petit. Donc j'y suis rentré assez tôt, J'ai passé quelques années. Et puis voilà, rapidement, je me suis rendu compte que la passion pour laquelle j'étais rentré au préalable, elle s'est estompée un petit peu. Les choses changent, le monde change, et puis le métier que je faisais changeait un petit peu également. Moi aussi, forcément, parce que voilà, j'étais avec ma copine, j'étais bien avec ma copine, et puis j'avais très peu de moments de vie privée. Et voilà, je sentais que tout ça faisait que il fallait que je change. Et j'avais également cet esprit entrepreneurial qui commençait à naître en moi. Et puis voilà, le fait de me dire que aussi, en plus du fait que mon métier me passionnait plus tellement, le fait de me dire qu'à la fin du mois, peu importe l'investissement que j'allais donner dans mon travail, peu importe tout ça, j'allais toucher la même chose à la fin du mois, c'est quelque chose qui me motivait de moins en moins. Donc je suis arrivé à un constat voilà assez rapide là-dessus, en me disant que il fallait que je trouve à moyen terme quelque chose pour être plus épanoui dans mon travail, tu vois, parce que ça l'était plus vraiment dans ce que je faisais. Et du coup, je me suis dit, voilà, donc où j'en suis dans ma vie. Donc, j'ai 20 et quelques années, j'avais un bac scientifique, tu vois, pas d'études supérieures. Donc...
Oui, justement, je voulais te demander, parce que là, tu nous as commencé à 20 ans où tu as entré dans l'armée, mais plus précisément, avant, qu'est-ce que tu avais fait, du coup, en termes d'études et tout ça?
Eh ben avant, j'ai fait un cursus normal. Donc, moi, je suis français, hein, je suis pas suisse. J'avais fait un cursus normal, donc avec un bac général, un bac scientifique. Une vie un petit peu lambda, tu vois. Je faisais pas mal de sport à côté parce que ça m'a toujours passionné. C'est la raison pour laquelle je te suivais également, tu vois. Et puis voilà, j'avais aussi une passion un petit peu dans l'aéronautique. Donc pendant ces quelques années, donc entre 17 et 20 ans où j'étais pas encore entré dans l'armée, j'étais pompier volontaire histoire de mettre un peu d'argent de côté et puis faire aussi ce métier qui se rapprochait un petit peu du premier métier que je voulais faire pour mettre un petit peu d'argent et me payer une petite licence de pilotage d'hélicoptère qui me plaisait. Donc voilà, j'ai assouvi cette petite passion déjà d'emblée. Et après voilà, j'ai vite bifurqué. Après je suis rentré assez tôt en école militaire, donc j'ai pas fait grand chose avant.
Donc direct après le bac, t'es parti à l'armée. En fait, t'as terminé ton bac scientifique, si j'ai bien compris. Ouais. Et là tu t'es dit je veux en fait piloter des hélicoptères. C'est ça.
C'est
ça.
Ouais, en fait. C'est par passion. Et puis j'ai voulu aussi y rentrer dans l'armée. Bon, j'ai pas réussi. C'était assez sélectif. Et puis j'avais échoué à ces tests-là. Mais j'avais essayé de le faire dans la latte, dans l'armée de terre. Et non, j'avais pas réussi à l'intégrer. Donc je suis rentré voilà dans l'armée pour objectif unité d'intervention, donc qui me plaisait bien. Pas directement après le bac parce que c'était au final 2 ans après, tu vois. Donc j'ai eu le temps de faire un peu pompier volontaire pour faire un petit peu d'argent, etc. pour payer cette licence. Et puis après, donc voilà, j'y suis rentré.
Ouais, d'accord. Donc pompier, ensuite militaire. Et puis ensuite,
c'est complet.
Tu es parti sur Internet derrière. Quel est le cheminement et combien de temps t'as fait à l'armée avant de commencer à te lasser un peu?
J'y suis resté grosso modo 4 ans parce que je suis parti. Entre 4 et 5 ans même en comptant l'école.
Mm-hmm. Ah ouais, quand même.
Tu vois. 5 ans. Et 5 ans en tout, j'ai commencé à être lassé au bout d'à peu près 3 ans et après il a fallu quand même que vu que j'avais pas d'études à côté, et ben me former pour faire quelque chose. Tu vois, je suis pas allé. J'ai pas quitté mon taf du jour au lendemain pour m'orienter dans l'e-commerce parce que ça aurait été un petit peu dangereux. J'avais aucun bagage dans ce milieu-là.
Mais quand t'étais à l'armée, du coup, moi j'ai un peu les réponses à certaines de ces questions parce qu'on se connaît un peu, mais j'essaie de creuser un petit peu plus la chose. Mm-hmm. T'étais à l'armée, tu bougeais beaucoup, t'étais toujours sur place. C'était quoi un peu, à quoi ça ressemblait tes journées? Parce que tu vois, moi, quand on me dit, et moi qui suis complètement ignorant de ce milieu et de ce métier ou presque, quand on me dit, je travaille à l'armée, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire autant on peut se dire en fait il est dans un bureau toute la journée, autant on peut se dire il est sur le terrain, il change de pays toutes les semaines, qu'est-ce que tu faisais? Et puis du coup la question qui en découle un peu, c'est où est-ce que tu trouvais le temps, dans quelles conditions, est-ce que tu as accès à un ordinateur, tu vois? Je sais pas honnêtement.
Ouais, donc en gros j'étais un petit peu en métro, j'étais en mission un petit peu partout, donc je bougeais constamment, j'étais à la fois en métropole mais également j'ai fait des placements à La Réunion, en Guyane, à Mayotte, donc
tu bougeais pas mal.
Ouais, dans les départements et territoires outre-mer. Et puis voilà, donc j'avais pas vraiment de vie privée, tu vois, j'étais chez moi, j'étais en déplacement peut-être un peu plus de la moitié de l'année, donc sans voir ma copine ni rien. Et puis voilà, c'était déjà il y avait ça qui me convenait plus trop, et puis le taf que je faisais changeait un petit peu et tout ça m'a donné envie de changer. Donc à côté, pendant ces missions-là, effectivement, j'avais mon ordi, j'avais aussi du temps de repos. Et puis, c'est à côté justement que je faisais des formations en ligne parce que le e-commerce m'intriguait. Tu vois, c'est quelque chose. Le fait de pouvoir vendre en ligne dans le monde entier sans être dépendant de l'endroit géographique dans lequel tu te trouves. Je trouvais ça ultra puissant, tu vois. Et ça m'intriguait, tu vois. Donc, j'ai fait pas mal de formations, qu'elles soient gratuites ou payantes sur Internet. J'ai beaucoup lu d'articles là-dessus, beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de contenu, hein, qu'on peut trouver sur Internet. Hein. C'est pas le truc que je vais l'apprendre d'ailleurs, mais.
Non, ouais. Je sais.
Et, ouais, donc j'ai fait pas mal de choses comme ça parce que j'avais pas ce bagage. J'avais aucune école de commerce, aucune école de business. Donc, j'ai appris comme ça sur le tas. Et puis
c'est fou ça, c'est ouais, je me demande d'où est née la petite flamme. Pourquoi le e-commerce comme ça? Est-ce que tu as une idée?
Eh ben tout simplement parce que tu vois la période où mon travail actuel me plaisait plus trop, je regardais un petit peu sur Internet ce qui était possible de faire et c'est vrai que le e-commerce, le commerce en règle générale m'avait toujours intrigué parce que pour moi le côté entrepreneuriat c'est dans le commerce t'en trouves beaucoup et puis le e-commerce m'intriguait de par ce que je te disais, tu vois, le fait que tu peux être partout, que je pouvais lancer cette activité déjà en parallèle de mon activité actuelle, peu importe l'endroit où j'étais, et ouais ça m'intriguait, donc je faisais pas mal de formations là-dessus. Donc j'ai eu ce déclic, tu vois, de me dire que en fait je voulais plus bosser pour un patron, je voulais bosser pour moi-même, et tout ça m'a orienté un petit peu vers ça.
Ouais, t'as eu cette possibilité en fait de transition douce, parce que si t'es sur le terrain à l'autre bout du monde, c'est pas comme si tu pouvais quitter ton emploi pour aller faire quelque chose d'autre, de manuel, de physique, quelque chose comme ça, où il faut que tu retournes en France, que tu recommences, que tu recherches du travail, enfin postuler à des jobs quand t'es en Guyane, c'est peut-être plus délicat.
Ouais, c'est
et,
plus complexe.
Et du coup avec ton ordinateur et du coup vu que t'étais loin de la maison, t'avais pas mal de temps libre, si t'avais une connexion internet, et ben pendant ce temps libre, je suppose que tu l'utilisais pour te former, pour gentiment tester un peu les eaux, creuser un peu la question d'une redirection professionnelle en même temps. Et puis à ce moment-là, du coup, t'as commencé à te former là-dedans. Et puis qu'est-ce qui a été un petit peu le au bout d'un moment, je suppose, ça a gentiment basculé. Ou alors tu as continué à faire les deux en même temps. Est-ce que t'as commencé à être actif vraiment en e-commerce, parce que tu as lancé une boutique, tu as commencé à vendre des produits. Est-ce que tu as fait ça en même temps que ton travail à l'armée?
Alors déjà, ouais, dans un premier temps, tu as raison. Donc pendant tout mon temps de repos, en fait, dans le cadre de mes missions, je le passais à 50%, même un peu plus, peut-être éventuellement 70% à bosser sur ça, à apprendre plein de choses, à essayer de développer des choses de mon côté. Le reste du temps, je le passais à faire du sport. Et puis j'ai eu ce déclic qui est arrivé dans le cadre d'une mission que j'ai eue quelques mois après les attentats du Bataclan qu'il y a eu sur Paris. Donc j'étais en mission, d'ailleurs on est passé il y a peu de temps, Eric, on en parlera dans un prochain podcast, mais j'étais en mission à la gare Saint-Lazare à Paris, dans le cadre du coup de la lutte contre le terrorisme. Donc j'étais en mission banale, hein, de surveillance, je regardais un petit peu les gens qui passaient pour essayer d'identifier une quelconque menace ou quoi que ce soit.
Donc c'est toi tu fais partie, je m'excuse de te couper, mais en fait j'ai une image parce que vu que je t'ai déjà vu sur cette gare en plus, donc toi tu étais l'un de ces militaires policiers qui sont en équipement militaire avec la grosse arme et qui patrouillent dans les gares, c'est ça que tu faisais?
Ça m'arrivait très rarement, tu vois, c'était pas mon job initial, mais dans le cadre, tu vois, de tout qui a changé, de tout ce contexte terroriste qui est arrivé, on a été rebifurqué sur là-dessus. À la base, c'était pas ma mission principale, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on a été amené à le faire suite à ça. Donc j'étais en mission pour ça. J'étais, tu vois, j'étais immobile et je regardais. Et puis en voyant les gens passer, c'était là, on arrive fin 2016 à peu près. Mm-hmm. Et puis je vois beaucoup de personnes passer avec, tu sais, des AirPods dans les oreilles. C'était le début des AirPods d'Apple, tu vois, les écouteurs sans fil complet.
Ouais.
Et tout ça, ça m'intriguait. Je me disais putain, mais ça c'est nouveau. J'ai jamais vu ça, tu vois. Ça commence à arriver tout juste. Et j'ai fait directement le parallèle avec les formations que je faisais depuis un moment maintenant en ligne sur le e-commerce, tous les trucs que j'avais lus, etc. Et je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire avec ça? Est-ce que je ne ferais pas bien de me renseigner à ce propos? C'est quelque chose de nouveau. En plus, je suis en train d'apprendre comment en vendre sur Internet. Est-ce que ça ne serait pas l'idée, en fait, d'offrir un produit de ce type-là et puis de commencer par ça? Donc, j'ai creusé un petit peu le truc et puis j'ai commencé effectivement sur ce type de produit. Donc, à la base, des trucs un petit peu random, tu vois, des écouteurs sans fil un peu random que j'achetais en Chine parce que c'est là-bas que ça se passe niveau high-tech, tout l'électronique en règle générale. Hein, c'est en Chine qu'il y a toutes les compétences de fabrication et tout ça. Pour ce domaine-là, en tout cas, hein, pour le high-tech.
L'électronique, ouais, il me semble que ça se fait pas trop en France.
Ouais,
en tout cas, les iPhones sont pas faits en France, je crois. Non
ouais, peu importe les marques d'high-tech, en général, il y a tout qui est fait là-bas, tu vois. Donc, je me suis rapproché, voilà, directement des fournisseurs, étant conscient que, c'est en travaillant en direct que j'allais pouvoir proposer des prix sympas. Et donc j'importe quelques écouteurs assez random, tu vois. Je les vends par Amazon, Amazon FBA. Donc Amazon FBA, c'est en gros, tu envoies ton stock chez Amazon, qui est stocké donc dans leur entrepôt, et puis ils expédient au compte-goutte en fonction des ventes que tu fais aux clients, tu vois.
Mmh, d'accord. Donc c'est pas du, c'est pas, enfin tu vois aujourd'hui quand on parle de e-commerce sur YouTube, et moi-même je suis, bon, c'est aussi parce que je suis intéressé par ça, mais moi-même je suis ciblé par énormément de publicités sur le dropshipping et tout cela, et j'ai l'impression que le dropshipping, qui est en fait l'envoi direct de la marchandise du fournisseur au client. En gros, ça veut dire que quand tu achètes sur la boutique de quelqu'un, eh bien, en fait, ça arrive chez le fournisseur, qui est généralement en Chine, et qui t'envoie ça en 2 ou 3 semaines à la maison. Et toi, tu n'as donc pas de stock et pas d'intermédiaire. Enfin, c'est toi l'intermédiaire, mais tu ne touches pas la marchandise, qui te permet de te lancer sans stock, en fait, vu que c'est produit à la demande. Mais là, toi, ça veut dire que tu devais créer un stock, l'envoyer ensuite physiquement chez Amazon et le vendre à partir de là.
C'est ça, c'est ce que je faisais, ouais. Donc, effectivement, ça n'a rien à voir avec le dropshipping. Il y a deux méthodes différentes, hein. Soit tu choisis d'avoir ton stock, et dans ce cas, tu procèdes, bah voilà, tu bosses avec ton fournisseur, tu développes ton produit, tu le modifies à ta guise, et tu achètes du stock, et t'en fais ce que tu veux ensuite. Ou alors, eh ben, t'as le dropshipping. Maintenant, le dropshipping, t'as pas mal de trucs qui se développent à ce niveau-là aussi. Tu peux avoir des temps de livraison assez réduits, mais c'est quelque chose que j'ai jamais pratiqué, le dropshipping. C'est un truc qui m'intéresse pas spécialement. Donc, j'en ai jamais fait.
Ouais, mais c'est surtout la vision des gens, en fait, c'est que, du dropshipping, c'est que tu prends un produit tout générique que tu trouves sur Alibaba ou AliExpress et tu l'envoies tel quel, alors que ça, c'est entre guillemets le dropshipping pur et dur et mal vu, c'est-à-dire faire d'énormes marges en vendant très cher les choses qu'on trouve pas chères en Chine, mais évidemment c'est très différent de travailler un produit, de créer une marque autour de cela, de créer du stock, de l'envoyer, et tu peux même faire du dropshipping avec ta propre marque, t'es pas obligé de revendre des choses beaucoup plus chères que ce que tu payes toi, mais ouais, alors là effectivement on n'est pas dans du dropshipping, même s'il y a rien de mal en soi à faire du dropshipping, sauf quand c'est des arnaques pures et dures, et j'en ai déjà été victime, et certains de mes amis aussi à l'époque où ça commençait. C'est vrai que c'était très facile de se faire avoir par les publicités Instagram, mais bref, je m'égare.
Ah, mais je suis d'accord avec toi, hein. C'est vrai que c'est deux méthodes commerciales différentes, tu vois, qui ont rien à voir. Et c'est plus facile, je trouve, de, bah, en tout cas, c'est plus, avoir du stock, c'est plus propice à de la création de valeur. Tu peux plus modifier le produit à ta guise et puis être moins dépendant d'un produit qui est plus ou moins tout fait et sur lequel t'as pas trop d'impact sur les variations possibles. Donc, ouais, moi, ce qui m'a tenté directement, c'était le fait de pouvoir aussi créer mon produit, le modifier, y apporter des trucs plus sympas, modifier les tailles, modifier les puces Bluetooth, tu vois, tout ça. Et en fait, faire mon produit à moi, c'est ça qui m'a chauffé. Mm-hmm. Donc, à la base, je faisais pas du tout mon produit à moi, j'ai importé des trucs tout faits, tu vois, avec du stock que je vendais. Tout se passait bien, je me faisais un petit complément de revenus de plusieurs centaines d'euros par mois jusqu'à un peu plus de 2000 euros par mois juste avec ce produit random, tu vois. Donc c'était cool, tu vois, en plus de
mon travail. Ok, ouais, pas mal du tout, ouais.
Et puis jusqu'au jour où, tu sais, je vendais sur Amazon, donc je m'étais créé une petite page produit sympa et tout. Et du jour au lendemain, t'as des mecs qui sont venus squatter ma page parce que forcément le produit m'appartenait pas, tu vois, c'était un truc random, donc t'as des mecs qui sont venus squatter.
C'est-à-dire ils sont venus squatter, ça veut dire quoi?
Ça veut dire en gros qu'ils sont venus rajouter leur propre offre à ma page produit parce qu'ils vendaient le même produit que moi et ils baissaient un peu les prix, tu vois, donc forcément.
Ah d'accord, donc en fait ils vendaient la même chose que toi mais moins cher, vu que
voilà, c'est ça.
Vu que ni toi ni eux aviez customisé le produit de base. Mmh, mmh. Il y a un peu cette concurrence de prix derrière et de substitution facile qui peut se mettre en place, quoi.
Voilà, c'est exactement ça. Et puis, donc, ça devenait beaucoup plus précaire jusqu'au jour où carrément j'ai reçu la menace d'un de ces mecs-là qui était sur ma page en disant que voilà, j'avais fait une violation de son design, que le design lui appartenait, que je pouvais pas vendre, etc. Donc ma page, mon offre est entièrement fermée. J'ai dû contacter Amazon pour débloquer. Et de ça, j'ai tiré une.
Lui, c'était le propriétaire du design.
Même pas. C'était, il avait fait un faux certificat parce que c'est un produit sur lequel, voilà, c'était pas un design spécifique. Il y avait rien de déposé ni quoi que ce soit. Il avait inventé un faux certificat et Amazon avait, tu vois, c'était le début vraiment de tout ça, quoi.
Donc en fait, c'était un mec qui avait contrefait à moitié le truc, qui allait embêter tous ceux qui faisaient exactement la même chose que lui, c'est ça.
C'était même le chinois en fait, le producteur qui voulait garder son monopole en fait.
Ah d'accord, donc, parce qu'ils vendaient directement eux-mêmes.
Ah c'est ça. Et du coup je me suis rendu compte que pour avoir quelque chose de posé et puis de stable, il fallait créer sa marque. Donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai créé ma marque. Donc pour avoir la propriété de ce que je vendais, etc.
Là, c'était quand, du coup, dans l'espace ? Parce que tu as commencé en 2016, tu as dit fin 2016, tu as commencé à te lancer avec...
Après
avoir vu à la gare de Paris, avoir eu ce déclic de qu'est-ce que tu pourrais... Dans quel type de produit tu pourrais te lancer ? Et là, c'est là que tu t'es lancé dans l'électronique. Mm-hmm. Tu as lancé ce premier test avec des écouteurs comme cela. D'ailleurs, ces écouteurs, du coup, on est d'accord, tu avais dû acheter tout un stock que tu avais mis. Mm-hmm. Tu as réussi à liquider tout ça avant que ta page se fasse fermer ou tu t'es retrouvé avec du stock sur les bras?
Je l'avais liquidé, même j'en avais racheté plusieurs fois parce que je pouvais en acheter, tu vois, que 100, enfin par exemple 100 par 100, tu vois, j'avais pas de...
Ah, d'accord.
Je devais pas acheter des gros volumes, tu vois, c'était des trucs déjà produits, donc...
Donc t'avais pas un gros investissement financier parce qu'il faut quand même les payer, ces 100
bien
de
sûr,
stock.
Ouais. Ça avait dû me coûter un truc comme 500 euros au début, tu vois.
Ok.
Donc je m'étais lancé avec ça et puis, donc on arrive là, je m'étais lancé du coup fin 2016, début 2017. À la mi-2017, j'ai créé ma marque, qui a été donc validé, parce que ça dure 6 mois à peu près, pour déposer une marque à l'INPI.
Ok. Donc tu as protégé, tu as créé une marque avec un nom, un logo, tout ça, et tu l'as fait protéger en France, c'est ça ?
C'est ça. Et puis début 2018, donc déposé, et puis donc, je commence à travailler sur ce premier produit, donc un écouteur. Par contre, cette fois-ci, que je customise entièrement, je modifie la puce Bluetooth, la taille, un peu, toutes les spécificités.
Donc là, tu as fait un vrai travail de...
Ouais, tu vois, j'avais...
Un vrai travail de marque, quoi. Tu as vraiment... Tu t'es approprié un modèle en discutant avec le fournisseur directement et sans juste acheter quelque chose qui était dans son catalogue de base, c'est ça?
Ouais, c'est bien ça. J'ai travaillé le truc en profondeur pour essayer de... Tu vois, j'avais encore dans ma tête la violation de design qu'on m'accusait, tu vois. J'avais essayé de faire en sorte que ça n'arrive plus de nouveau, quoi. Donc, j'ai fait ce travail-là avec eux. Et puis, donc, j'ai commandé un petit exemplaire de test, tu vois, que j'ai fait venir là. J'ai montré ça à mes potes, etc. Ça plaisait à tout le monde. Donc, je me suis dit, OK, je vais en acheter. Et là, l'usine me dit, par contre, il faut en commander 1000 minimum parce que, vu que il faut qu'on refasse un moule spécial parce que la forme est modifiée, parce que les couleurs sont différentes et tout ça.
Parce qu'ils gravaient ton logo et tout ça, quoi. Donc, forcément, c'est quelque chose qui a un coût de base et qui est rentable sur la grosse production.
Mmh, c'est ça. Et du coup, ils ont voulu que j'en achète 1000. Alors là, je me suis dit, putain, il faut que j'en prenne 1000. Ils m'ont fait une cotation à, c'était un truc comme 13 euros. 13 euros tout inclus avec l'importation et tout ça.
Donc, par écouteur, ça veut dire.
Par écouteur, ouais. Donc, j'en avais pour 13 000 balles, tu vois.
Ah ouais, quand même.
Donc là, je me suis dit, OK, je me souviens, j'étais sur mes chiottes dans ma caserne, tu vois. À ce moment-là, pour la petite anecdote, tu vois, pour relancer le public, tu vois.
Pour vraiment se remettre dedans, quoi.
Ouais, tu vois. Donc, j'étais là, tu vois, je me suis dit, merde. Donc, ça fait des mois que je bosse là-dessus. Ça a l'air de marcher parce que ça a marché sur mes produits d'avant et tout ça. Et maintenant, il faut que je concrétise le truc. Donc, soit je fais ce virement de 13 000 balles à une usine chinoise que je connais pas, avec aucune garantie derrière, parce que, tu vois, c'était ma première grosse importation. Soit je la fais, et je risque de les perdre. Mais j'ai aussi l'opportunité derrière de vivre ma passion, tu vois, et toucher un truc. Soit je me dis, je les garde confortablement, je les mets de côté, je pourrais les dépenser pour me faire plaisir. Et puis je reste dans la petite vie qui est pas si mal que ça, mais dans laquelle je suis plus trop épanoui non plus. Donc voilà, je suis resté une petite demi-heure, je crois, sur les chiottes quand même à réfléchir.
À pondérer ton destin. Ok, qu'est-ce que je fais?
Et là, c'est pas facile, tu vois, parce que tu te dis, OK, il faut pas non plus que je valide le truc parce que je me suis engagé émotionnellement et puis j'ai engagé du temps là-dedans, tu vois. Il faut réfléchir à tout ça. Et je me suis dit, OK, donc je suis conscient qu'il y a du risque. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a constamment du risque dans tout, tu vois, dans tout, même dans ta vie en règle générale, toutes les décisions que tu vas prendre, il y aura un risque. Et je pense qu'en fait, tout simplement, il faut essayer de se former suffisamment et essayer de prendre du recul pour minimiser ce risque au maximum, bien qu'il faut être conscient également que ce risque, il sera jamais à zéro, il sera toujours là. Donc je m'étais dit, OK, ça fait des mois que je bosse là-dessus, le risque, j'ai essayé de le mesurer, de le diminuer au maximum. Maintenant, il est toujours là. OK, je fais ce virement. Donc j'ai envoyé les 13 000 balles en Chine. J'ai eu ma première production qui s'est faite, j'ai importé le truc, et puis ça a commencé à se vendre correctement, et puis ça s'est bien passé finalement, j'ai bien fait de faire ça.
Ouais, donc t'as quand même reçu la marche, ils sont pas juste partis avec tes 13 000 euros, et puis toi tu t'es retrouvé
pu, en fait,
sur tes toilettes comme ça, à rien faire.
Pendant des heures et des heures, tu vois.
Ouais, pendant des heures, attends, mais alors est-ce qu'ils vont me répondre?
Bah je t'avoue que je pense que dans la foulée j'ai envoyé quelques messages sur me dire ok, j'ai envoyé et tout, pour voir s'ils me répondaient, tu vois.
Ouais, quand même, s'ils répondaient toujours.
Mais ouais, ça a été une de mes plus premières grosses décisions, et ben dans cette nouvelle activité, tu vois. Voilà, 13 000 balles, c'est pour moi, c'était pas rien, tu vois, c'est mes économies, depuis toujours, tu vois, dans ce métier que je faisais, je dépensais pas beaucoup parce que j'étais nourri, logé et tout ça, donc c'était des années d'économie.
Ça fait beaucoup de mois de salaire, j'imagine, 13 000.
Ouais, 13 000, ah bah ouais, j'étais à 1005 par mois, tu vois, pardon, j'étais à 1006, 1007 plutôt. C'était beaucoup, tu vois. Donc, j'ai choisi de le faire quand même parce que je pensais à ce moment-là avoir mesuré un petit peu tous les risques, les avoir diminués au max et puis avoir fait un travail correct. Donc tout ça s'est importé, j'ai bien vendu.
T'as commencé, du coup ils ont été mis en vente quand à peu près c'est
Donc c'était au début 2018, donc je crois que c'était mois de février, un truc comme ça, janvier-février 2018.
Okay.
Ça a commencé à se vendre à ce moment-là, au début ça se vendait bien, après forcément voilà, tu vois moi j'avais aucune formation particulière derrière au niveau scolaire, j'avais fait toutes mes formations en ligne, j'avais appris plein de trucs, mais voilà j'ai appris sur le tas surtout, tu vois c'est en pratiquant que j'ai appris la majeure partie des choses. Se lancer sur un écouteur quand t'es auto-entrepreneur et que t'as aucun marketing derrière, alors que t'as des géants comme Boss, comme JBL, comme des grosses boîtes comme ça.
C'est ultra compétitif l'électronique
et
à
oui,
ce niveau-là.
C'était pas Sony, forcément le bon
Boss,
produit,
tous,
tu vois.
Sennheiser, eux ils sont tous pareils, ils se fournissent tous en Chine du coup pareil, sauf qu'eux ils ont la réputation, la renommée, l'équipe derrière. Et la marque, hein, clairement.
Ah, c'est clair. J'étais resté sur l'idée des écouteurs parce que ça avait plutôt bien marché avec les écouteurs random d'avant. Je surfais plus ou moins sur une tendance, tu vois. Mm-hmm. Ce qui marchait, c'était plus la tendance que l'écouteur, d'ailleurs, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec du recul, voilà, c'était ma première erreur dans le business parce que je me suis lancé sur un produit sur lequel, avec du recul, je me serais pas lancé, tu vois. Sans marketing, c'était un peu risqué. Donc, j'ai quand même pris ce risque. J'ai eu de la chance parce qu'il n'y avait pas encore trop de compètes à ce moment-là. Donc, ça a été. Et voilà. Et là, on en vient à notre rencontre, tu vois.
Bah oui, parce que du coup, ça commence à me rappeler de plus en plus la première fois dont j'ai entendu parler de toi. Et c'était, j'étais retrouvé à notre première conversation parce que tu m'avais envoyé un message privé sur Facebook, sauf erreur. Et c'était en septembre 2018, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, en gros, à ce moment-là, je me rendais compte que, pour vendre mon truc, il me fallait quand même du marketing. Il y avait pas mal de chaînes parce que mon écouteur était plutôt approprié pour le sport, enfin il marchait bien dans le milieu sportif, et je me suis dit bon, je vais contacter pas mal de youtubeurs, instagrammeurs français dans le milieu du sport que je connais, et je vais leur proposer un petit peu, tu vois, une sorte de voilà, tu vois, de qui s'affiche mon produit, que je les rémunère en conséquence, etc.
Ouais, une espèce de marketing d'influenceur classique,
quelqu'un
aurait mis placement de produit en sur Instagram, sur YouTube, contre rémunération, quoi. Comme ça se fait énormément.
Ouais, c'est ça.
Depuis longtemps maintenant, effectivement.
Mm-hmm. Donc, j'ai contacté pas mal, j'ai contacté Bodytime, j'ai contacté, Eric, tu vois, ici présent. et d'autres chaînes, je me souviens plus exactement qui d'autres j'avais contacté. Donc, Bodytime, ils m'ont apporté une réponse.
Bodytime, c'est quand même des gros, hein. T'as contacté, parce que Bodytime, même il y a 2 ans, ils étaient au sommet, entre guillemets, c'était quand même les mecs en musculation sur YouTube, parmi les plus connus, ne serait-ce que, ouais, vraiment, les plus connus devaient être à pas loin d'un million d'abonnés, un peu moins quand même. Et tu leur as, parce que moi à côté, tu vois, alors 2018, ça faisait quoi? Ça faisait un peu moins d'un an que j'avais commencé YouTube, je devais être à, je sais pas, 30 000, 40 000 abonnés peut-être.
C'est ça, plusieurs dizaines de milliers, mais je me souviens plus exactement. Mais...
Donc t'as shooté assez large quand même, hein, t'es allé
j'ai
chercher
shooté
en haut,
assez large,
en bas,
en fait,
au milieu.
Ouais, mais j'ai pas envoyé à 12 000 chaînes non plus, j'envoyais simplement aux gens que je suivais, tu vois, que je connaissais. Je voulais pas envoyer à des gens qui éventuellement allaient m'arnaquer, c'était des personnes en qui j'avais plus ou moins confiance, même si je les connaissais pas, mais de par le fait que je regardais leur contenu. Mmh,
d'accord, ouais.
Et Bodytime, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils étaient assez gros, et puis j'appréciais le contenu qu'ils faisaient et tout. Donc j'avais envoyé, et puis à toi en parallèle, et Bodytime, ils m'ont répondu direct, tu vois, c'était assez rapide. Et ils m'ont dit...
Tu l'as envoyé par email, par message sur les réseaux aussi ou...
J'avais envoyé donc par Messenger et également par mail aussi.
Okay.
Et par mail, donc ils m'ont répondu. Donc, alors nous, c'est 5 000 euros la story ou 10 000 euros la publication, je crois, un truc du style.
Sur Instagram.
C'est 5 000 euros je crois 5 000 euros l'apparition, il m'avait dit.
5 000 euros la... Waouh, ouais, quand même.
Voilà,
bon,
donc...
Je connais un petit peu, aujourd'hui, je connais un petit peu les tarifs qui se proposent. Je suppose que ça dépend aussi de à quel point tu fais des placements régulièrement, à quel point le produit... te semble cohérent avec tes abonnés, et puis ouais quand même hein, avec 5 000 euros les 15 secondes de story je vois que c'est pas mal
tu vois, j'y connaissais rien dans ce milieu, mais je me rendais compte que c'était pas forcément la bonne option quoi, tu vois.
Ouais.
Donc j'ai pas choisi ça en l'occurrence,
ça fait un gros risque quand même, hein.
Ouais, c'est ça. Et puis je t'ai envoyé un message à toi, et puis j'ai une réponse complètement différente, tu vois, qui m'a un peu plus interpellé. En gros, grosso modo, bon, il y a eu pas mal d'échanges de messages.
Est-ce que je t'ai répondu déjà? Ouais,
il y a eu pas mal d'échanges.
Je te laisse résumer la chose, vas-y.
Ouais, vas-y, tu diras après, histoire de voir si les versions sont quoi de temps différentes ou pas, tu vois.
Vas-y, vas-y.
Parce que ça commence à dater maintenant, mine de rien.
Ouais, ça fait quand même un moment, ouais.
Donc, ouais, à ce moment-là, tu m'as... Bon, il y a eu plusieurs messages échangés, mais grosso modo, dans l'ensemble, tu me faisais comprendre que, bah voilà, une apparition et puis un placement de produit, ça t'intéressait pas parce que t'avais pas l'habitude de le faire. Et qu'en plus, à moyen terme, tu envisageais éventuellement de te diversifier via une création de marque ou quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, on a discuté pas mal à ce sujet, pas mal d'appels vidéo, d'appels. Et puis ouais, on s'est chauffé. Moi, j'ai senti qu'il y avait un feeling direct. Et puis ouais, on a pas mal parlé de ça, dans l'immédiat. Mm-hmm. C'est quoi ton souvenir, toi, de...
Bah, mon souvenir, c'était qu'effectivement, tu m'avais envoyé un message très formel, comme ça, normal, hein, en mode... Bonjour, nous sommes une entreprise de. Je me souviens que évidemment tu me vouvoyais dans tes premiers messages jusqu'à ce qu'on passe comme ça un peu au tutoiement après avoir commencé à se parler un petit peu puis de se rendre compte qu'on n'était pas en fait influenceur à entreprise mais un petit peu plus être humain à être humain et qu'on pouvait donc se tutoyer vu qu'en plus on a plus ou moins le même âge et tout. Et que au début effectivement tu m'avais proposé un placement de produit classique, tu me demandais mes tarifs sur mes stories et tout ça, et que moi j'avais jamais fait ça, j'avais pas l'intention de le faire. Hein. En réalité, je me souviens plus à quel point j'étais net et précis à ce niveau-là quand je t'ai répondu en mode non, ça ne devrait jamais pouvoir se faire. Je pense pas que j'étais comme ça, mais en gros moi je commençais tout juste à vendre mon premier programme, je crois. Je commençais tout juste à gagner un peu d'argent avec ce que je faisais, et je préférais cultiver une image à long terme de vente de mes propres produits plutôt que de faire des placements réguliers à gauche à droite tout le long. Donc j'étais de toute façon pas spécialement intéressé à faire le placement de tes produits, mais il me semble qu'on en avait discuté justement un petit peu, et puis que on était arrivé un petit peu sur l'idée que faire le placement du produit de quelqu'un d'autre, ça m'intéressait pas spécialement, mais faire le placement de mes propres produits, bah ça m'intéressait bien. Et c'est là que on a gentiment commencé à mettre sur le tapis le fait d'éventuellement combiner les deux, c'est-à-dire de créer mon propre produit, mon propre produit par rapport à tes compétences à toi, mélanger nos compétences à ce niveau-là, de façon à faire quelque chose qui pouvait nous convenir tous les deux. C'était ça, parce que tu m'avais envoyé ton écouteur, que je l'avais testé en tout bien tout honneur, hein, sans aucune, on n'avait même pas spécialement discuté de tout ça d'abord, hein, je me souviens, j'avais testé ça pendant un mois et demi, deux mois, hein, il me semble quand même, avant qu'on se fasse notre premier appel Skype très sérieux, pendant lequel ensuite on a discuté de tout ça et des éventuelles possibilités de collaboration. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sérieusement sur cette idée que, ok, moi je suis intéressé, le produit que toi tu avais conçu, je le trouvais de très bonne qualité, il me plaisait bien pour mon sport, ça me semblait cohérent, intéressant. Moi, j'avais du coup éventuellement une audience qui pourrait être intéressée à ce que je vendais, sauf que moi, j'avais pas les compétences, évidemment, de commerce, d'écouteurs et de choses comme ça. Donc, on s'est dit, si on mélange nos compétences, que moi, je travaille sur un design typiquement qui me ressemble, qu'on refait, en fait, ce qu'on a fait concrètement, hein, on peut le dire, c'est tout à fait normal et légitime, c'est que toi, tu avais déjà fait tout le travail sur l'écouteur. Et que ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le travail que tu as fait sur l'écouteur et qu'on l'a adapté au design d'une nouvelle marque qu'on a créé pour cette occasion. Parce que je me souviens que c'était pile à ce moment-là que je venais de créer mon logo, tu vois. Moi, j'étais... c'était quoi ? Ça faisait 9 mois que j'avais commencé YouTube. J'étais relativement sérieux, tu vois. J'étais là en mode, je vais me faire... J'ai trouvé quelqu'un qui a pu me faire le logo que j'utilise toujours aujourd'hui, le logo Eric Flagg, qui est d'ailleurs sur les produits de la boutique aujourd'hui. Et je venais tout juste de créer ça, et je disais, ouais, attends, je suis en train de finir de créer mon logo, peut-être qu'ensuite on pourra éventuellement discuter de quelque chose. Et quand mon logo était terminé, c'est là qu'on a fait notre appel Skype, sauf erreur, en novembre 2018, et qu'on s'est lancé là-dedans. Hein. Et je me souviens, notre premier appel, moi j'étais là en mode, parce qu'on avait commencé à discuter, on s'est dit, ok, on va tenter ça. Donc on va tenter ça, et moi je te demandais, bon, très bien, alors on est parti, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vendre les écouteurs le mois prochain?
Dans 2 mois.
Comment ça se passe? Dans 1 ou 2 mois, non? Comment ça se passe? Et là, tu m'avais calmé. Tu m'avais calmé de ouf. Vas-y, je te laisse.
Ouais, parce que c'était intéressant. On avait eu un appel assez sérieux. Le feeling était bien passé et tout ça. Donc, on était chaud pour se lancer. On a le produit, on le connaissait, on l'a retravaillé, on a travaillé plein de trucs ensemble. Mais ouais, il y a des timings assez longs, mine de rien. Le processus de création de marque, déjà, il y en a pour plus de 6 mois pour
Ça m'a
valider.
choqué, ça. Quand tu m'as dit ça, tu m'as tellement cassé dans mon élan. J'étais là, ouais, trop bien, on va lancer notre marque et tout. Et là, tu m'as dit, ouais, attends, attends, calme-toi, Erika. Peut-être que dans 6 mois, on pourra commencer à
À travailler
commander
sur le
des,
produit.
à travailler sur le produit. Puis là, j'étais là, oh, purée, c'est pas possible.
C'est
Six
vrai.
mois!
Non, parce que pour se protéger vraiment, et puis voilà, moi je l'ai pris sur le tas, hein, j'en ai subi des conséquences parce que je l'avais pas fait, mais pour se protéger, il faut voilà créer sa marque à l'INPI au minimum. Donc l'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle et Intellectuelle, histoire de voilà, histoire d'avoir la protection de ses produits. Et puis ça, voilà, ce processus dure 6 mois minimum.
C'est là que ton expertise et que ton expérience au préalable de tes plus de 2 ans en e-commerce que t'avais à ce moment-là, ben nous ont extrêmement servi parce que si on s'était lancé comme ça sans expérience du tout, on aurait probablement refait les mêmes erreurs que tu avais fait toi la première fois. Et là, bah concrètement, tout ça a eu du sens, hein. Concrètement, ta première fermeture de page, t'avais appris certaines choses et toi, je me souviens, t'as été extrêmement carré et clair en me disant, bah Eric, si on fait les choses, on va les faire bien. Moi, j'ai déjà fait certaines choses, on va pas refaire les mêmes erreurs. Et puis moi, moi je dis, ok, bah, très bien, c'est clairement toi qui sais ce qu'on fait là-dedans. Tu m'as un peu cassé mon enthousiasme en me disant qu'il fallait attendre 6 à 12 mois avant de commencer à sortir la boutique. Mais d'un autre côté, bah voilà, ça, de toute façon, à côté de ça, moi je continuais à faire mon travail. Et puis je disais, bon, ok, parce que je me souviens, j'avais annoncé ça dans une vidéo. Je crois, à la fin d'une vidéo, j'avais dit, ouais, j'en veux peut-être un truc, une surprise qui va arriver bientôt. Et je crois que la boutique, elle a ouvert genre 8 mois après, tu sais. J'étais pas du tout, j'avais pas du tout les pieds dans ce milieu, quoi.
Ça dépend comment les gens perçoivent le bientôt, tu vois. Ça peut passer 8 mois, tu
Ouais.
vois.
Mais ça, c'est
Non,
passé,
mais
hein, mine de rien, là. On
c'est passé.
se retrouve plus de 2 ans après et c'est effectivement passé. On a dû faire beaucoup de choses, hein. On a dû immatriculer la société, etc. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Mais concrètement, il y a quelque chose qui est quand même assez important sur lequel revenir, je pense, c'est que bah, on s'est lancé là-dedans. On s'est lancé là-dedans à 50-50. On a tout créé, on s'est tout mis à moitié-moitié. On a dû faire. Bah, on avait commencé à travailler sur les écouteurs et en même temps, on a commencé à travailler sur notre premier produit né directement de nos deux mains ensemble dans la boutique, qui ont été les barres parallèles en bois,
C'est vrai.
Qui sont toujours sur la boutique aujourd'hui. Ça a pris pas mal de temps aussi. On a dû prendre un risque, hein. On va pas se mentir, hein. Lancer tout ça, on a dû créer, concevoir ces deux produits et créer des stocks et acheter des stocks et les faire revenir ici en France. Et on a dû investir, bah moi j'ai aussi investi une partie de mes économies à ce moment-là. Et ça a aussi été un risque financier clair, hein, on va pas se mentir. Et c'est là que la question aujourd'hui que je me pose et que je me suis déjà posée depuis 2 ans, bien sûr, mais je serais intéressé d'avoir ton avis aussi. C'est que on va pas se mentir, hein. On s'est associé comme ça 50-50 dans une boîte où on a mis de l'argent, où on a investi des choses, des risques, du temps. On savait pas, ça pouvait potentiellement devenir quelque chose d'assez grand et on se connaissait pas vraiment. On s'est associé là-dessus, on se connaissait quand même, bah voilà, on s'était jamais vu en vrai, hein. Toi t'étais en France, moi j'étais en Suisse, on avait fait des Skype, on s'était vu, mais c'était quand même un risque. Enfin, tu vois, le nombre d'histoires que j'ai lues derrière d'entrepreneuriat où bah, deux personnes se sont associées parce qu'elles étaient potes ou parce qu'elles n'étaient pas potes et que ça n'a pas bien marché, il y en a beaucoup. Du coup, j'aurais envie de te demander, toi, aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais cette façon de faire pour lancer un business?
Je la conseillerais pas forcément typiquement comme on l'a fait nous, parce que c'est vrai que voilà, on s'est associé en ligne en fait, concrètement.
Ouais.
On se connaissait de nos appels vocaux, de nos appels vidéo, bon, même s'ils étaient nombreux, mais on s'était jamais vu physiquement avant d'immatriculer la société en tout cas.
À nouveau, tu étais peut-être juste quelqu'un qui allait partir avec mon argent et vice versa. Peut-être que j'étais juste quelqu'un qui allait
Ouais, bon,
partir
moi
avec le
je.
tien.
Non, mais c'est sûr qu'on a
On avait
fait une
confiance,
prise de
on va pas se
risque.
mentir.
On a fait,
Ouais.
on a pris des risques en faisant ça, c'est clair. Après, est-ce que c'était de l'inconscience ou est-ce que on sentait que l'autre était sérieux et puis qu'on savait que le potentiel était tel que ça aurait été débile de faire ça, je sais pas. Après, voilà, c'est vrai que voilà, je conseillerais pas en l'état typiquement de faire les choses comme on les a faites parce que on sait jamais sur qui on peut tomber et puis qu'il faut rester vigilant il y a des personnes, c'est vrai, à tout moment, l'un aurait pu partir avec l'argent de l'autre. Après, on a fait les choses correctement dans le sens où, avant de faire tout dépôt de capital ou quoi que ce soit, on a immatriculé la société, on a rédigé les statuts, quelque chose de carré qui fait que si l'un était parti avec la somme de l'autre, en fait, il y avait l'aspect légal derrière qui aurait tout rattrapé, tu vois.
Mmh, oui, c'est vrai que toi, tu as... Et c'est aussi ce qui m'a donné confiance en toi rapidement, c'est que tu étais très carré, très précis, tu voulais absolument que les choses soient bien faites, et t'as bien raison, parce que ça te protégeait toi aussi, et moi qui suis, moi concrètement j'ai quand même fait des études de commerce, j'ai dû apprendre le droit des sociétés, du commerce et tout ça, donc j'avais des notions correctes de comment est-ce qu'on faisait les choses correctement, de façon à se protéger aussi, et d'avoir un cadre légal et juridique, et du coup je me rendais bien compte quand tu m'expliquais tout cela que, on fait ça, on fait les choses bien, c'est exactement comme on m'a plus ou moins appris à le faire si je devais faire ça correctement, et ça m'a donné confiance en toi, en le processus, en le fait que de toute façon, on faisait les choses correctement, on était les deux au même niveau et qu'il n'y avait rien de particulièrement suspect. Au contraire, même moi, comme je l'ai dit, tu vois, j'étais un peu plus enthousiaste en mode « Ah, trop bien, on va lancer ça, ça va être bien. » Et toi, tu m'as dit « Ouh, calme-toi, on va créer la société, on va déposer ton logo, on va protéger la marque. »
C'est clair. Non, on a fait les choses correctement, et c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus stressant, et puis en plus, déjà, ça aurait été totalement bancal de le faire un peu à l'arrache, tu vois, de commencer à commercialiser sans statut, sans entité, tu vois. Mais là, étant donné qu'on a fait les choses correctement, ça nous a plus ou moins rassurés tous les deux, parce que le fait de voir quelque chose qui était déposé au tribunal de commerce avec des statuts, 50%, tout bien carré, tu vois, c'est quelque chose qui on risquait peut-être moins que ce qu'on peut le penser, tu vois, en fait.
Mmh. Ouais, clairement. L'histoire a continué, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, et nous a prouvé que, à mon avis, on a bien fait, parce que il me semble qu'on s'entend toujours plutôt bien aujourd'hui, et qu'en plus, on est en contact tous les jours, et que il me semble que ça nous plaît bien ce qu'on fait. En tout cas, je sais que c'est le cas pour moi. Et pour en revenir, du coup, au processus, à partir du moment où on s'est plus ou moins mis d'accord, on s'est dit, OK, on va lancer tout ça. C'est vrai qu'on s'est dit, on s'associe à 50% tout ça, mais ça, c'était en fin 2018. Et comme tu l'as mentionné, je crois, on a ensuite immatriculé la société, le dépôt de capital et tout ça. Ça n'a pas été engagé avant mi-2019, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Vers mois de mai, on a été immatriculé, je crois, au mois de juin 2019. Et puis première vente après, on a provisionné les produits.
Parce que là, on a parlé des écouteurs, mais à très peu de choses près, il me semble, à un mois d'intervalle près, on avait sorti nos deux premiers produits sur la boutique qui étaient, du coup, les écouteurs Bluetooth qui étaient complètement redesignés à la couleur de la nouvelle marque. Et dont j'avais fait moi-même tous les designs, et pourtant j'ai fait un peu de commerce, j'ai fait des vidéos sur YouTube, mais le design et tout ça, c'est le graphisme, c'est pas vraiment mon métier, mais étant donné qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse et qu'on était que les deux et qu'on n'avait pas beaucoup plus de compétences que ça de graphisme, c'est moi qui avais fait tout le design avec mes petites mains de la boîte et des écouteurs et tout cela. Et que à côté, on s'était dit, on va travailler sur un premier produit, on va axer un petit peu plus. Du coup, ça semblait assez évident qu'on partait sur plus des équipements de sport, du street workout, parce que moi, j'avais fait mes vidéos dans la niche un peu du street workout, et ça semblait être un endroit où il y avait de la place à tous les niveaux, également au niveau en termes de boutique spécialisé un petit peu dans ce genre d'équipement, ça courait pas les rues, et surtout moi j'avais l'expérience, et c'est à partir de là qu'on est parti sur la plupart de nos produits, j'avais l'expérience de beaucoup d'équipements de street workout que j'avais chez moi parce que j'étais un consommateur, un utilisateur, et donc j'étais pas vraiment satisfait, clairement. Alors c'est le pitch de vente classique, on va pas se mentir. Oh, j'ai essayé tellement d'équipements qui ne m'ont pas plu, du coup j'ai créé ceux que j'ai toujours voulu avoir. Mais aussi cliché que ça sonne, c'est exactement vrai, parce que...
C'est vrai.
On en a parlé beaucoup, je me souviens bien également, mais ça, c'est pas possible. Moi, en tant qu'utilisateur, en tant que sportif, tu vois, je comprenais pas comment est-ce que quelqu'un vendait ça avec cette caractéristique-là. En trop, cette histoire qui marchait pas, pourquoi elle parlait, elle glisse au sol, mais ça me semblait genre aberrant. Et la conclusion semblait assez évidente, c'est que ceux qui créaient et qui vendaient ça, ils l'utilisaient pas. Ils utilisaient pas eux-mêmes le produit. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être un avantage compétitif, entre guillemets, à avoir là-dessus. Et c'est là qu'on est parti sur la conception précise au centimètre près, je me souviens. Purée, ça a pris du temps, parce que là, on a eu du temps. Hein. On a eu 6-8 mois pour travailler sur ce design de première parallette avec des allers-retours d'exemplaires test. À un moment, je me souviens que la barre centrale, elle n'était pas assez haute. On a fait différents tests pour les pads antidérapants pour les dimensions et tout ça. C'était cool. Je me souviens, bon, franchement, ça me revient là au moment où on en parle.
C'est un bon souvenir, tu vois.
C'est vraiment des bons souvenirs. C'était, même si, ouais, tu vois, il y avait l'appréhension qui montait un petit peu de, ok, on travaille dans l'ombre, tout va bien, on risque pas grand chose. C'est un peu comme quand je préparais ma première vidéo, tu vois. T'as tendance à vouloir y passer trop longtemps, parce que tant que tu l'as pas sorti, t'as pas pris de risque, en fait. Enfin, je sais pas si c'est clair. C'est clair ce que je dis, c'est qu'en fait, vu que t'as un peu peur de la sortie et de si ça va marcher ou pas, t'as tendance à peut-être à faire éterniser un petit peu la phase de préparation et à jamais te lancer, entre guillemets.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on a fait un gros travail là-dessus pour être sûr que ça allait plaire à un maximum de monde, tu vois, pour se rassurer aussi qu'on allait en vendre derrière. On a fait un travail vraiment de fond en comble. On a retravaillé toutes les dimensions du produit, parce que les parallettes, c'est pas un produit qu'on a inventé non plus.
Bah non, clairement.
Mais voilà, on a tout amélioré, que ce soit au niveau des dimensions, au niveau du type de matériaux, au niveau du pad antidérapant en dessous, tu vois. On était les seuls à proposer un pad qui allait de bout en bout, aussi stable. Et après, voilà, un travail aussi de design intéressant avec le logo gravé et tout ça. Pour ce deuxième produit, ouais, on a bossé dessus pendant longtemps, et puis, pas mal d'exemplaires de tests aussi que tu as reçus, que tu as revalidés.
Qui se sont empilés chez moi. D'ailleurs, j'ai beaucoup de parallettes et de choses comme ça chez moi, parce que forcément, quand je reçois quelque chose, bah derrière, je l'ai toujours. Alors, j'en offre à mes amis, bien sûr, mais oui, je me souviens que mes parents, voilà, j'avais déjà toutes les parallettes, les anciennes que j'avais. Bah, je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup de barres en bois qui traînaient partout dans la maison. Et du coup, après avoir... on arrive gentiment quand même au moment où tout ça s'est lancé, parce qu'on a... On a bien parlé de toute la préparation, mais le jour est venu, hein, on a commencé avec les écouteurs, il me semble, en août 2019, la boutique
a
ouvert sur mon site, sur ericflag.com, on avait lancé ça, tout ça, bah, le site, c'est moi qui l'avais fait aussi, ça ressemble toujours un peu aujourd'hui, hein, la boutique, c'est toujours moi qui l'a fait, on est un petit peu dans un processus de redesign, là, peut-être que la boutique sera redesignée au moment où cet épisode sortira, mais c'est vrai que là, on commence à se rendre compte qu'il faut qu'on monte un petit peu notre niveau à ce niveau-là. Mais c'est sorti en août, et puis les parallettes sont sorties en septembre 2019.
Ouais, c'est ça. Exactement.
On a eu des problèmes, des histoires, je me souviens plus. Non, au niveau des stocks, on avait dû prendre un stock de 1000. Hein. On avait dû prendre 1000 écouteurs et 1000 parallettes au début.
1000 paras, ouais, c'est ça.
Donc c'était quand même un gros investissement, un gros risque, en mode, bon, bah, est-ce que les produits sont bons? On avait confiance dans les produits et on n'a pas été déçus à ce niveau-là. Mais est-ce que quelqu'un va vouloir nous faire confiance et acheter quelque chose que cet inconnu sur Internet qui fait des vidéos a mis en avant? Ouais, bah au final...
Et c'est là qu'on vous remercie tous pour le soutien, parce qu'effectivement, ça... On en a vendu une paire, hein, quand même.
On en a vendu quelques-unes d'ici la fin 2019. C'était justement plutôt... on était bien contents de notre année 2019, concrètement.
2019, ouais, on en était contents. Après, c'était une année assez courte, parce qu'on a bossé que de août à décembre, grosso modo. Mm-hmm. Mais c'est grâce à ça qu'on a pu lancer tous les autres produits, qu'on a lancés en 2020. On en parlera plus tard, mais c'est grâce à tout ça. Parce qu'on réinvestit tout dans des nouveaux produits. On n'a pas optique à se rémunérer outre mesure. On fait ça pour proposer un maximum de produits avec un maximum de valeur. Et puis,
ouais, ça c'était encore plus la stratégie qu'on avait discutée ensuite début 2020, parce qu'en fait 2019 concrètement c'était l'aboutissement d'une année de travail tous les deux à se rencontrer, à mettre en place, à immatriculer, à déposer
administratif, hein, surtout
administratif, beaucoup d'administratif. Oh là là, ça m'a
cassé
un peu dans mon élan, mais voilà, au bout d'un moment, une fois que c'est fait, bah c'est fait, puis il faut mieux faire les choses bien. Mais en fait, cette année 2019, ces deux premiers produits, c'était le test. Après, c'est comme ça que moi je l'ai vu beaucoup. Je me suis dit, bon, on a mis beaucoup d'investissements dedans, mais si jamais ça marchait pas, il faudrait, voilà, essayer de se détacher émotionnellement de toutes les ressources qu'on a perdues, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie, dans quelque chose qui marche pas. Bah voilà, c'est pas parce que t'as déjà dépensé beaucoup qu'il faudrait prendre ça en compte dans la suite des décisions. Et c'était le test. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Et on prend une décision à partir de là. Et on était satisfait des résultats fin 2019. Il y avait beaucoup de personnes qui nous avaient fait confiance là-dedans. Les retours étaient bons. Et c'est là, sauf erreur, qu'on s'est dit, bon, écoute Nico, écoute Eric, ça a l'air de marcher. Je suppose qu'il y a quelque chose à creuser et qu'on est parti un petit peu sur une discussion sur qu'est-ce qu'on voyait pour 2020 et que ensuite. L'année 2020 nous a apporté beaucoup beaucoup de surprises, hein, pas que à nous bien entendu, mais qu'on avait.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me souviens parce qu'au début 2020 j'ai fait une vidéo où je racontais, je parlais de mon parcours un peu, je racontais comment je gagnais ma vie sur YouTube. Je me souviens et j'avais parlé de la boutique et c'était en janvier et j'avais dit ouais, alors du coup la boutique, voilà un petit peu, on a deux produits, etc. On est content, ça marche bien et du coup l'objectif de 2020 c'est d'approfondir un petit peu plus tout cela. Et il me semble que c'est ce qu'on a fait ensuite en 2020, quoi. Quoi qu'il en soit, bah là, on arrive un petit peu gentiment peut-être au bout de ce premier épisode. On a un petit peu retracé pas mal le parcours. On a pu poser un petit peu le décor de ce qu'on fait, un petit peu pourquoi on le fait, comment on continue. Et puis peut-être qu'on pourrait parler de... Je sais pas ce que t'en penses, mais attaquer le récit de 2020 dans un prochain épisode sur cette boutique.
Ouais, ça serait intéressant. Surtout qu'on a plein de trucs à vous raconter en 2020. Une année riche en émotions.
Ouais, alors il s'en est passé des choses à tous les niveaux, hein, parce que, bah, juste pour résumer un tout petit peu aujourd'hui, on a 7 produits dans la boutique, donc on en a quand même sorti 5 de plus. Il y en a d'autres qui arrivent maintenant. Il y a évidemment eu tous les événements qu'on connaît, qui se sont passés en 2020, qui nous ont affectés à différents niveaux. On va pas se mentir que globalement, l'entraînement à la maison et les équipements de musculation, ils ont plutôt été mis sur le devant de la scène, bien entendu. Donc on a été très très privilégié à ce niveau-là, mais il y a eu d'autres soucis entre guillemets à gérer au quotidien et on pourrait effectivement parler de ça dans un prochain épisode, tout comme un petit peu plus de notre relation, de notre répartition un petit peu des tâches dans la boutique, parce que clairement on a très précisément séparé tout cela et je pense que c'est ce qui explique aussi notre réussite, en tout cas le fait qu'on s'entende bien et que, sauf erreur, on n'a jamais eu de clash l'un avec l'autre, on sait jamais trop.
Non, c'est vrai que c'est jamais arrivé, tu vois, et je suis pas sûr que ça arrive.
Touchons du bois. Ah, je crois qu'on s'entend bien, surtout que, bah, évidemment, on s'est rencontrés plusieurs fois depuis, hein, on a passé plusieurs jours ensemble, on était à Paris tous les deux récemment pour voir nos fournisseurs. D'ailleurs, on a une petite vidéo sur YouTube qui arrivera, je sais pas, peut-être au début de l'année prochaine, sur la boutique qui complémentera en images beaucoup. Ce qu'on raconte un peu dans ce podcast aussi, parce que ouais, c'est quelque chose dont on est très fier et du coup c'est avec plaisir que je voulais aussi en parler un peu sur ma chaîne, bien entendu, même si sur ma chaîne, tu vois, la différence de ce podcast, je parle pas trop d'entrepreneuriat, de tout ce qu'on fait à côté, que ce soit tous les deux ou même tout seul, voilà, je me concentre un peu plus sur le sport et tout ça, mais une petite vidéo pour parler de notre bébé boutique, ça, voilà. Après 2 ans et demi, je pense qu'on aura fait nos preuves et qu'on méritera.
On aura la matière pour en parler de façon intéressante. Ouais, ouais, ça va être sympa.
Ça devrait pouvoir le faire. Bon, eh bien, sur ce, on va peut-être pouvoir terminer sur le petit coup de promo, parce que vu qu'on parle de boutique et qu'on est en fin d'année, c'est le moment. C'est le moment.
On est en plein dedans,
là. Cet épisode, je pense, va sortir fin novembre. Et du coup, fin novembre, à partir du 23 novembre, on fait une grosse promotion sur la boutique pour Noël. On va créer des petits packs spécial Noël avec différents produits qui seront dans des réductions assez franches et assez concrètes. Donc voilà, c'était l'instant promo du 23 jusqu'à la fin de la livraison pour Noël, ou autour du 15 décembre, quelque chose comme ça. Il y aura pas mal de promos sur la boutique sur ericflag.com. Je me suis permis de faire la promo, Nico, j'espère que tu m'en veux pas.
Non, mais c'est un truc que tu fais bien, donc je t'écoute, hein, c'est sympa.
C'est un peu mon métier aussi, je suis un peu obligé, tu vois. Si faire des vidéos, c'est cool, mais si tu veux manger, il faut faire un peu plus que des vidéos, parce que malheureusement, YouTube, il paye pas beaucoup.
Et ça va, c'est des propres produits en plus, donc t'es totalement légitime.
Ah oui, et puis surtout, moi, j'en suis fier. Hein, c'est aussi pour ça que j'ai jamais vraiment voulu faire des placements de produits pour d'autres choses, et que j'ai jamais vraiment considéré, c'est qu'il faudrait quelque chose que je connaisse, j'utilise vraiment, que je consomme personnellement depuis un moment, parce que il faut que je, enfin tu vois, si tu veux être crédible quand tu dis achète quelque chose, eh bien il faut que tu y crois. Et là, il y a pas de doute, j'y crois quand je dis que les produits sur lesquels on a beaucoup passé de temps, de sueur et personnellement de sueur pour de vrai, hein, parce que je m'entraîne dessus aussi, on va pas se mentir. Eh ben, c'est avec plaisir. Bon, Nico, merci beaucoup pour ton temps cet après-midi, même si voilà, on est beaucoup en contact tous les jours. Merci d'être venu discuter un petit peu avec moi de tout ça, de la boutique, de t'être présenté. Et puis, j'espère que c'était pas trop traumatisant comme expérience, ça va ?
Non, je te remercie. Moi, c'était une première expérience pour moi, ce genre de choses. Mais c'était vraiment avec plaisir que je l'ai fait. C'était vraiment intéressant. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Et puis, pourvu que ça dure, en tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter, a priori. Donc, merci à toi.
Merci, Nico. Et puis, on se parle ce soir, j'imagine, hein, ou demain matin.
Dans 10 minutes, je te fais un petit audio.
Dans 10 minutes, un petit audio, ça marche. Et la légende raconte que, voilà, 10 minutes plus tard, précisément, j'ai reçu un petit message vocal de Nico pour me parler, du business du jour, de ce qui se passe en ce moment, etc. Enfin bref, la vie a continué comme normal. Et bon, voilà, c'est pas pour dire, mais cet épisode arrive gentiment à son terme. Hein. Comme mentionné, il est potentiellement le premier d'une petite série qu'on fera tous les deux avec Nico, dans laquelle on parlera plus en détail de nos aventures passées et à venir avec la boutique. Si t'as un commentaire à propos de cet épisode, tu peux nous le poser sur ericflag.com/9. comme le numéro de cet épisode, et si t'as une question à propos de la boutique, ou à propos du business, ou de cet épisode, et de quelque chose qui est en rapport avec ce dont on a discuté, on pourrait tout à fait y répondre en direct la prochaine fois, et tu peux ainsi la poser en message vocal directement sur ericflag.com/podcast, là où tu retrouveras aussi tous les épisodes du podcast. Voilà, on arrive au bout de celui-ci, merci énormément pour ton temps et ton intérêt pour tout ça. On se retrouve sans faute jeudi prochain pour l'épisode numéro 10. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao! Bon, t'as officiellement atteint la fin de cet épisode. Félicitations! Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en lui mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et en t'abonnant pour ne rien rater. Et ça, tu peux le faire là, maintenant, en sortant ton téléphone. Ça prend 5 secondes, tu vois. Merci beaucoup pour ton attention. J'apprécie énormément. Passe une belle fin de journée et à très bientôt.